Et c'est le journal d'Hélène Philly. Bonjour Hélène.
Bonjour à tous. Le premier tour des régionales remporté par l'abstention, qu'en sera-t-il du second? Appel à la mobilisation hier des candidats de tous bords. Les procurations possibles jusqu'à ce soir, pas sûr que cela suffise. L'abstention, est-ce un signe de défiance ou de désintérêt de la politique? On va en parler aussi tout à l'heure avec vos invités, Nicolas.
Oui, la directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Céline Braconnier, qui est l'une des très grandes spécialistes des phénomènes abstentionnistes, et le politologue Jérôme Jaffré, lui, dirige le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique. Ils seront donc au micro d'Inter vers 8h22-23. Participez à ce débat. L'essentiel, c'est de participer. 01 45 24 7000.
Le pic historique des prix des matières premières, c'est parti pour durer et ça met en péril un certain nombre de chantiers. Dans ce journal, encore le Canada, sous le choc après la découverte de plus de 750 tombes près d'un pensionnat pour autochtones. Problème de sponsors, parfois même de ressources. C'est l'autre défi des athlètes à un mois des Jeux Olympiques de Tokyo. Et puis le football, ça ne va pas fort chez les Bleus. La liste des blessés s'allonge avant le 8e de finale lundi contre la Suisse.
France Inter.
Était-ce un oubli ou un refus mûrement réfléchi? Les abstentionnistes gagneront-ils aussi le second tour dimanche des régionales et départementales? C'était l'un des gros enjeux de la semaine pour les candidats de tous bords. Mais si on cherchait le signe d'un sursaut de mobilisation, ce n'est visiblement pas du côté des procurations qu'on le trouve. Dans les Yvelines, en tout cas, les électeurs ne se bousculent pas, Marion Ferrer.
Procuration papier et les procurations dématérialisées. Toutes celles enregistrées.
La récolte du jour tient dans une petite boîte, une centaine de procurations. Autant dire, pas grand-chose pour Stéphanie Maurice, responsable du service élection à Versailles.
Du tout. On a parfois 3-4 boîtes.
Habituellement, à la veille d'un scrutin, ces agents croulent sous les procurations.
On ne peut pas considérer un sursaut. On en est à 1300 environ en tout depuis le début dans l'enregistrement. Pour une présidentielle, on a entre 8000 et 10000 sur un mois, c'est énorme.
Quelques kilomètres plus loin, la ville de Plaisir. Au premier tour, seulement 29% de participation. La municipalité a passé sa semaine à rappeler la procédure pour la procuration. Sa cible, les jeunes. Résultat amer, seulement 126 formulaires ont été validés. Khaled Belbachir, directeur des relations citoyennes.
Quand on connaît aujourd'hui les chiffres de l'abstention, on se dit que les procurations, c'est une solution. Il y a eu un article de rappel qui est passé par les réseaux sociaux parce qu'on va essayer de chercher ces jeunes aussi. Malheureusement, encore une fois, on n'arrive pas à faire décoller les chiffres.
Pourtant, la procédure a été facilitée cette année, accessible en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. Il suffit ensuite de la valider au commissariat ou au tribunal le plus proche, et c'est encore possible jusqu'à ce soir.
Et les candidats profitent des dernières heures pour convaincre. Meeting hier soir en Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, où les candidats de droite sont en tête. Dans les Pays de la Loire, où l'alliance de gauche peut créer une surprise face à la candidate LR. Et en PACA, qui sortira gagnant du duel, Renaud Muselier-Thierry Mariani. Le candidat RN était en meeting hier soir à Fréjus, dans le Var, et il a tenté de mobiliser ses troupes face au front républicain avec du soutien, Adrien Becht.
Je suis venu vous apporter de bonnes nouvelles. J'ai vécu votre avenir.
Louis Alliot, invité de Marc pour tenter de galvaniser les troupes, maire de Perpignan depuis un an, élu face à un maire sortant soutenu par tous les partis, il veut croire que PACA suivra son exemple.
Ce front républicain est une imposture. Il ne concerne aujourd'hui que l'élite et les élus. Mais le peuple a déserté.
Dimanche dernier, ce sont plutôt les électeurs RN qui ont déserté. 33% de participation seulement ici dans ce bastion de Fréjus. Alors Thierry Mariani dramatise.
Dimanche, c'est simple. Si vous restez chez vous, c'est Emmanuel Macron dans cette région qui aura enfin une victoire.
Mobilisé, suffisant pour empêcher une victoire de Renaud Muselier, soutenu par la droite, le centre, les écologistes, les socialistes, les militants n'y croient plus vraiment.
Ils se mettent ensemble tous et on gagnera jamais. Mince.
Car Marine Le Pen a beau marteler qu'il n'existe plus.
Le Front républicain, il est toujours là. Je m'y attendais un peu. C'est toujours la même histoire.
Un bon signe serait que la participation augmente de 5 à 6%, estime Thierry Mariani. Seul espoir pour que le RN puisse encore l'emporter et sauver ses régionales.
Adrien Becht dans le Var, fin de campagne ce soir. Les enjeux des régionales et des départementales, tout est évidemment sur franceinter.fr.
Il est 8h05, l'activité du bâtiment a repris, Hélène, mais les matériaux manquent et ça commence à durer.
Il faut dire que l'activité est repartie très vite et très fort aux États-Unis et en Chine. Leur appétit joue sur les stocks et les prix qui s'envolent. En France, un chantier sur cinq pourrait bien se retrouver très vite à l'arrêt. Très compliqué pour les professionnels de la construction. C'est le reportage de Maxime Debs.
On a du travail, mais en même temps, on ne sait pas si on va pouvoir travailler.
Jean-Michel Martin dirige une entreprise de charpente et de menuiserie, 40 salariés dans le Maine-et-Loire. Américains et Chinois s'approvisionnent en masse chez nous, ce qui complique son quotidien. Par rapport à l'an dernier, panneaux en contreplaqué et autres affichent des prix parfois multipliés par 3.
On ne sait plus comment réaliser un devis. Ça bouge tous les 15 jours. Donc, on ne sait plus si on doit prendre un peu plus de marge pour l'évolution peut-être du prix ou est-ce que ça va rebaisser après. On ne sait pas non plus. On est vraiment dans un flou complet.
Bois, plastique, carrelage, ce flou est général, insiste bien Jean-Christophe Repond, le président de la CAPEB qui représente les artisans du bâtiment.
On est sur la première année de remboursement du PGE, même s'il n'y a que 30% des entreprises artisanales du bâtiment qui ont fait appel au PGE, ça reste très tendu. Donc nous, ce qu'on essaye de dire aux gouvernants, c'est qu'on demande à ce que la tension qui a été pendant le Covid continue.
Que les pénalités de retard soient suspendues, surtout pendant plusieurs mois dans le secteur privé, et que l'État, qui parle de sortir des aides, prenne en charge le chômage partiel à 100%, plus qu'actuellement, c'est la rentrée que notre charpentier craint particulièrement.
On peut prévoir qu'il y aura des arrêts complets d'ateliers de fabrication, donc plus de produits, on ne pourra pas avancer, on sera obligé, on ne saura pas quoi donner à nos salariés.
Avec la crainte pour le secteur de devoir licencier, ce serait quand même fou quand on sait que la reprise est là.
On essaie d'aménager les délais et les coûts, c'est la promesse de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a déjà demandé aux acheteurs publics de ne pas appliquer de pénalité de retard en cas de difficulté à respecter les délais. Et voici un marché qui pourrait bien rapporter gros, la publicité segmentée à la télévision pour la chaîne de pizza qui a son restaurant à deux pas de chez vous, géolocalisé, personnalisé. C'est autorisé en France depuis quelques mois et deux mastodontes viennent de s'allier pour accélérer leur développement. TF1 et Le Bon Coin, Alexandra Hakoun pour l'explication.
On a tous connu au cinéma, juste avant le film, ce plan fixe vantant les mérites d'un restaurant situé à deux pas de la salle. Eh bien, la publicité segmentée, c'est la même chose, mais directement dans votre télé, pendant que vous regardez un programme en linéaire. Sylvia Tassantofola est la directrice générale de la régie publicitaire du groupe TF1.
Sur la base de critères de géolocalisation, de typologie de foyer ou de centre d'intérêt, c'est effectivement la possibilité de recevoir une publicité personnalisée au niveau des foyers français, foyers qui, bien évidemment, ont donné leur consentement pour recevoir de la publicité ciblée.
Et à condition d'avoir une box Orange ou Bouygues Télécom, avec qui TF1 a déjà signé des accords. Ainsi, dès le mois d'octobre, le géant des petites annonces proposera à ses quelques 500 000 entreprises référencées de communiquer via un spot TV sur les antennes de TF1.
Ces entreprises-là, jusqu'à présent, considéraient que le média télévision ne leur était pas accessible. Comme avec la télévision segmentée, ils vont pouvoir toucher leur zone de chalandise, valoriser leurs offres et leurs services locaux. Donc pour eux, c'est une nouvelle opportunité de pouvoir communiquer auprès de leur cible.
Autorisée depuis août dernier par décret, la publicité segmentée n'en est qu'à ses balbutiements en France. Avec cet accord, TF1 et Le Bon Coin se positionnent fortement sur un marché qui, selon les projections, pourrait peser en 2023 jusqu'à 220 millions d'euros.
Alexandra Hakoun, à l'étranger, c'est une découverte qui replonge le Canada dans l'un des pans les plus sombres de son histoire. La découverte de 751 tombes près d'un pensionnat pour autochtones. Elle témoigne des abus et mauvais traitements subis par des dizaines de milliers d'enfants indigènes victimes d'assimilation forcée dans des établissements religieux. À Montréal, la correspondance de Pascal Guéricola.
Les représentants politiques canadiens ont réagi avec beaucoup de tristesse à la découverte de ces tombes anonymes qui confirment l'indifférence avec laquelle les autorités de ce pays ont longtemps traité les Amérindiens et les Inuits. Le chef des Premières Nations de la Saskatchewan, Bobby Cameron.
Le monde regarde. Désormais, le Canada va être vu comme le pays qui a essayé d'exterminer sa population autochtone. Maintenant, nous avons des preuves dont les survivants des pensionnats autochtones nous parlaient depuis des décennies. Ils ont raconté avoir été traités sans humanité. Ils ont été torturés, agressés.
De son côté, Cadmus Delorme, le chef de la nation Kogwenes, où se trouvent les tombes anonymes, attend du gouvernement du Canada un réel engagement envers les autochtones.
On doit décoloniser l'administration canadienne pour qu'elle concentre ses efforts sur les Premières Nations afin que nous puissions nous gouverner nous-mêmes. Et c'est comme ça que nous allons guérir. Nous sommes fatigués qu'on nous dise quoi faire et comment le faire. Nous sommes capables d'agir par nous-mêmes. J'espère que lorsque mon enfant de 4 ans sera vieux, nous serons réconciliés avec le Canada.
Près de 150 000 enfants ont fréquenté les pensionnats pendant un siècle. Et beaucoup des survivants emportent aujourd'hui les stigmates. À Québec, Pascal Guéricola pour France Inter.
Aux États-Unis, effondrement spectaculaire d'un immeuble résidentiel près de Miami. C'était en pleine nuit et cela fait craindre un très lourd bilan. Les autorités sont sans nouvelles d'une centaine de personnes. Et puis on connaîtra aujourd'hui la peine du policier Derek Chauvin, reconnu coupable du meurtre de George Floyd. Une affaire qui avait entraîné une vague inédite de manifestations contre le racisme et les violences policières dans le pays. Quand la voix d'un enfant arrive à la barre, au procès du meurtre de la famille Troadec à Nantes, l'accusé Hubert Caouissin a commencé à se raconter, l'or fantasmé à l'origine de tout, le doute dévorant. Mais son fils, 8 ans à l'époque, comment a-t-il vécu ce huis clos obsédant et puis l'horreur? Partie civile, il est représenté à la barre par une administrative, mais sa voix a porté et peut-être a porté à ce procès une lueur d'espoir. Récit signé Corinne Audouin.
Jean aura 13 ans le 8 juillet prochain, le jour du verdict au procès de ses parents. La représentante de l'association du Ponant l'a rencontré une dizaine de fois. Elle raconte, Jean a un an d'avance, c'est un très bon élève. Il aime le français, le latin et l'histoire. Il voudrait être médecin, chercheur ou écrivain. Il est à la fois plein de curiosité et très introverti. C'est un mélange assez détonnant, sourit-elle. La relation à l'autre, l'amitié, c'est encore compliqué, mais je le vois s'ouvrir de plus en plus. Il accepte désormais de ne pas être aussi parfait que le souhaitait son père. Jean lui a raconté la discipline quasi militaire dans la ferme de Pont-de-Buis, les repas mangés froids s'il n'avait pas fini ses devoirs. J'ai préparé ce récit avec lui, voici ce qu'il tient à dire. Il aime ses parents, même s'il est aussi très en colère contre ce qui se passait à Pont-de-Buis. Hubert Caouissin et Lydie Troadec pleurent dans le box. Jean est placé, il voit sa mère de temps en temps. L'administratrice conclut son récit par cette note d'espoir. Il évolue positivement et sa vie actuelle lui plaît beaucoup. Nantes, Corinne Audouin, France Inter.
Jean a un prénom d'emprunt, représenté donc à la barre par une administratrice. Vous pouvez suivre ce procès à distance, mais en temps réel sur Twitter avec Corinne Audouin. Le département des Landes sous surveillance, le variant Delta, y représente 70% des contaminations désormais contre 10% sur le reste du territoire. Le gouvernement réfléchit à décaler l'assouplissement des dernières restrictions. Les jauges, le masque, toujours sur le nez, ailleurs, certains ont continué à le porter, même dehors, par précaution ou habitude. C'est le reportage de Mathilde Leuil.
Dans cette rue commerçante, la plupart des passants ont décidé de garder le masque, Claudia par exemple.
Là je sais que je vais rentrer dans quelques boutiques, je le porte dès que je sors de la voiture.
Parce que sinon on a tendance à oublier de l'enlever et le remettre.
Exactement, et puis bon il se salit entre temps, on l'attrape mal, voilà.
Par contre quand elle promène son chien, c'est sans masque, comme Valérie qui tient son caniche en laisse.
Dès que je peux j'enlève.
C'était la libération quand vous attendiez ça?
Totalement, oui, oui. Surtout qu'il a fait très chaud, donc c'était vraiment très pénible de porter le masque dehors. Vraiment.
Un peu plus loin, Charlie vient de sortir d'un taxi, il a oublié d'enlever son masque. Il précise qu'il préfère se promener le visage à l'air libre, sauf...
Quand il y a du monde, il y a la foule, dans ces cas-là, je le porte en extérieur.
Même stratégie pour Baptiste. Il marche masque sous le menton, prêt à le remonter à tout moment. Et puis il y a Odile qui reste masquée en permanence.
C'est très difficile de se rappeler, quand on est vieille comme moi, quand il faut le porter ou pas le porter. Voilà.
Vous avez quel âge? Vous n'avez pas l'air...
87.
Alors face à tous ces visages couverts, certains, comme Fatih, se sentent un peu obligés de faire pareil.
Je le respecte. Et si tout le monde ne l'avait pas, je l'enlèverais et c'est tout. Hein. Parce que là, ça m'étouffe. Hein. J'aimerais bien le quitter complètement.
Le masque, ce n'est un plaisir pour personne. Ceux qui le gardent pour l'instant expliquent qu'ils espèrent bientôt s'en débarrasser. Peut-être quand une majorité de Français seront vaccinés.
Le nombre de malades du Covid soignés en réanimation est passé sous les 1500 au plus bas depuis octobre.
Il est 8h14, à un mois des JO de Tokyo. Hélène, le défi n'est pas que sportif pour les athlètes.
Il est parfois aussi financier, problème de sponsors et parfois même de ressources. De nombreux sportifs ont du mal à s'en sortir. On est loin de l'image des Jeux Olympiques qui font rêver, qui brillent, y compris dans les sports rois des JO comme la natation. Jordan Potin est qualifié pour les Jeux, mais pour lui, rien n'est simple. Jérôme Val l'a rencontré.
Il y a tellement de sportifs olympiques qui sont en galère et aujourd'hui, je vois ce que c'est.
Après les Jeux de Rio, Jordan Potin était présenté comme la future star de la natation française. Un nageur taillé pour collectionner les titres, disait son entraîneur à l'époque. 5 ans plus tard, il est toujours dans les bassins, mais sans la réussite escomptée et dans une situation précaire.
J'arrive à payer mon loyer et faire mes courses avec ce que me donne mon club de Nice et ce mécène.
Jordan Potin n'a plus de sponsor, la crise sanitaire n'a rien arrangé. C'est donc un mécène qui l'épaule pour l'instant.
La natation, ça devient très compliqué financièrement. Comme vous voyez, je porte un t-shirt sans marque. Donc, c'est hyper compliqué à 27 ans de se projeter quand il n'y a pas cette stabilité financière.
Avant même d'entamer ses deuxièmes Jeux Olympiques sur le 200 mètres nage libre et en relais, Jordan Potin pense déjà à l'après. Il va reprendre ses études de kiné et mûrir un autre projet.
C'est fou de se dire que l'avenir il est indécis, pas par le côté sportif, mais par cet aspect en fait financier et de vie tout simplement. Enfin, il faut que je vive.
Jordan Potin n'est pas un cas isolé. Mélanie Hennick, autre tête d'affiche de la natation tricolore en lice pour une médaille olympique cet été, n'a elle aussi plus de ressources. Son sponsor s'est retiré à quelques semaines des Jeux.
Il y a comme une petite faiblesse au sein de l'équipe de France de foot avant le match de lundi contre la Suisse, 8e de finale de l'Euro. Thomas Lemar et Marcus Thuram se sont blessés hier pendant l'entraînement. Ousmane Dembélé a déjà quitté la compétition et Lucas Digne souffre de la cuisse. De la vigueur, il y en aura un peu plus sans doute ce soir sur les terrains de rugby. Toulouse, La Rochelle, c'est le programme, la finale du top 14. Un beau programme.
Très beau programme. Merci Hélène Philly. Le programme météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Oh, la matinée bien grise sur le nord, Marie-Pierre.
Et oui, Nicolas, avec l'arrivée d'une perturbation par la Manche, on a déjà des petites pluies de la Bretagne au Cotentin. Le ciel est bien chargé de la Normandie remontant sur les Hauts-de-France. Les grisailles et les brouillards sont nombreux entre les Ardennes et la Lorraine, mais aussi sur le centre, comme sur le massif central au Pays Basque et partout ailleurs. Bien, le soleil est plus généreux avec du vent méditerranéen sous un mercure très contrasté entre les 5 relevés dans la Creuse et les 7 en Lozère, alors qu'il fait 20 à Nice. Vous avez 13 à Lille et Strasbourg, 11 à Bordeaux et à Paris.
Et cet après-midi, plus nuageux au nord de la Loire.
Et oui, car les pluies vont gagner la Normandie, Hauts-de-France, voire quelques gouttes en région parisienne, et les cumulus se multiplieront du centre à la Vendée. Et plus on ira vers le sud, plus on aura un dégradé nuageux et ensoleillé, avec une averse orageuse possible sur les reliefs de l'Est, et sous le soleil autour de la Méditerranée, avec un vent d'ouest qui va souffler assez fort. Et des températures estivales, contrairement à celles du nord, 30 attendues à Argelès-sur-Mer et Nîmes, mais seulement 17 à Saint-Malo et 18 à Fort-Mahon-Plage. Il fera 20 à Lille, 21 à Paris, Nantes ou Biarritz, 22 à Saint-Gély-de-Brac, 23 à Colmar, comptez 24 à Lyon, 25 à Bordeaux et 29 à Ajaccio.
À tout à l'heure, Marie-Pierre. Merci. France Inter, 8h18.